Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 5, chapitre 8, sommaire. Du primitif du changement. Double sens de cette expression. Le primitif du changement est dans le changement achevé et non dans le changement initial. Démonstration de cette proposition. Le primitif n'est ni dans l'objet, ni dans le temps. Paragraphe 1. Quand on parle du point primitif où l'objet a changé, cette expression peut avoir deux sens. Ou bien c'est le premier point où le changement est complet et achevé, car c'est seulement alors qu'il est exact de dire que l'objet a changé, ou bien c'est le point où le changement a commencé à se produire. Paragraphe 2. Ainsi, le primitif dont on parle quand il s'agit de la terminaison du mouvement est réellement et subsiste par lui-même, puisqu'il est possible que le changement se termine et qu'il y ait une fin du changement. Et nous avons démontré que ce point est indivisible. Précisément, parce qu'il est une limite et un terme. Paragraphe 3. Mais quant au primitif qui se rapporte au début du changement, il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de début du changement, ni un premier moment du temps où le changement ait eu lieu. Soit, en effet, ce primitif AD. Ce primitif n'est certes pas indivisible, car autrement, il en résulterait que les instants sont continus. De plus, si l'objet est en repos durant tout le temps CA, car nous pouvons supposer le repos, il est en repos également durant le temps A. Par conséquent, si AD est indivisible et sans partie, il en résultera que tout à la fois le corps sera en repos et qu'il sera en état de changement. En effet, il est en repos en A et il est changé en D. Mais si AD n'est pas sans partie, il faut nécessairement qu'il soit divisible et qu'il y ait changement dans une quelconque des parties dont il se compose. Par suite, AD étant divisé, si l'objet n'a changé ni dans l'une ni dans l'autre partie, il n'a pas non plus changé dans le tout. Si au contraire il a changé dans les deux, il a changé dans le tout également. S'il n'a changé que dans l'un des deux, il n'a pas changé dans le tout primitivement. Par conséquent, il y a nécessité qu'il ait changé dans un des deux quelconques. Donc il est clair que ce n'est pas là le point où primitivement il a changé, puisque les divisions sont infinies. Paragraphe 4. Ce n'est pas davantage dans l'objet changé qu'il y a quelque chose qui est changé primitivement. Soit DF, la partie de DE, qui est changée primitivement, puisque on a démontré que tout ce qui change est divisible. Soit le temps dans lequel DF a changé, représenté par HI. Si donc DF a changé dans tout le temps, ce qui a changé dans la moitié du temps sera moindre que DF et antérieur à DF. Une autre partie sera moindre encore, puis encore une troisième moindre que la seconde, et ainsi à l'infini. Par conséquent, il n'y aura rien dans l'objet qui change, qui est changé primitivement. Paragraphe 5. Il ressort donc clairement de ce que nous venons de dire qu'il n'y a pas de primitif, ni pour une partie de l'objet qui change, ni pour le temps dans lequel il a changé. Paragraphe 6. Mais il n'en sera plus tout à fait de même de la chose dans laquelle l'objet se change, c'est-à-dire de la qualité selon laquelle il change. En effet, il y a trois choses à considérer dans tout changement. D'abord, l'objet qui change, puis ce dans quoi il change et ce en quoi il change. Par exemple, l'homme, le temps et la blancheur. L'homme et le temps sont divisibles, mais c'est autre chose pour la blancheur. Si ce n'est qu'indirectement, tout est toujours divisible, et ainsi, l'objet qui reçoit la blancheur, par exemple, et ainsi, l'objet qui reçoit la blancheur, par exemple, et la qualité est divisible. Mais tout ce qui par soi-même, et non par accident, est appelé divisible, ne peut jamais non plus avoir de primitif. Prenons notre exemple dans les grandeurs. Soit, si l'on veut AB, la grandeur, et qu'elle se meuve de B en C, primitivement. Si BC est considéré comme indivisible, il en résultera qu'un objet sans partie sera continu à un autre objet sans partie également. S'il est divisible, il y aura quelque chose d'antérieur à C. Et en quoi le corps a changé. Puis, il y aura un autre antérieur à celui-là. Et toujours ainsi, parce que la division ne fera jamais défaut. Par conséquent, il n'y aura pas de primitif dans lequel l'objet sera changé. Même raisonnement encore pour le changement dans la quantité. Car la quantité est essentiellement comprise dans le continu. Donc, il est évident que le mouvement relatif à la qualité est le seul dans lequel il puisse y avoir de l'indivisible en soi. Chapitre 9. Sommaire. Le changement a lieu dans toute partie quelconque du temps primitif, durant lequel ce changement s'opère. Double démonstration de ce principe. Paragraphe 1. Comme tout ce qui change, change dans le temps, et que changer dans le temps peut s'entendre tout à la fois et relativement au temps primitif où le changement a lieu et relativement à un autre temps. Car on dit par exemple qu'un objet a changé dans telle année par cela seul qu'il a changé à un certain jour de cette année. Il s'ensuit que le changement doit avoir nécessairement lieu dans toutes les parties du temps primitif où ce qui change a changé. Paragraphe 2. C'est ce qui résulte évidemment de la définition. Et c'est bien en ce sens que nous comprenions le mot de primitif. Paragraphe 3. Voici encore un autre moyen de nous le démontrer. Soit en effet XR, le temps primitif dans lequel se meut ce qui se meut. Et supposons encore qu'il soit divisé en K, car tout temps est divisible. Dans le temps XK, l'objet se meut ou il ne se meut pas. Même raisonnement en KB. Si le corps ne se meut ni dans l'une ni dans l'autre des deux parties du temps, il ne se meut pas non plus dans le temps entier et il y est en repos du moment qu'on suppose qu'il est impossible qu'il se meuve dans aucune des parties du temps. S'il ne se meut que dans l'une des deux seulement, il ne se meut pas dans XR primitivement, car le mouvement est alors relatif à un autre. Donc, il faut nécessairement qu'il se meuve dans toutes les parties de XR. Chapitre 10. Sommaire. Tout mouvement ou changement actuel suppose toujours un mouvement ou changement antérieur. Démonstration diverse de ce principe. Application spéciale à la grandeur. Mélange nécessaire de l'antérieur dans tous les cas. Impossibilité absolue d'arriver jamais au primitif dans les choses divisibles et continues. Paragraphe 1. Ceci étant démontré, il est clair que tout ce qui se meut actuellement doit avoir été déjà mu antérieurement. Si en effet, dans le temps primitif XR, un corps s'émeut de la grandeur KL, dans la moitié de ce même temps, un corps qui se meut avec la même vitesse et qui a commencé simultanément à se mouvoir, se sera mu de la moitié. Mais si l'objet doué d'une vitesse égale a été mu de quelque chose dans le même temps, il faut aussi que l'autre objet se soit mu de la même grandeur. Par conséquent, le corps qui se meut a été mu. Paragraphe 2. D'un autre côté, si nous disons que le corps a été mu dans le temps entier XR, c'est ou absolument que nous le disons, ou pour une partie quelconque de ce temps, dont on ne considère alors que l'instant extrême. C'est cet instant en effet qui le termine, et l'intervalle qui est entre les instants est le temps. On pourrait dire aussi bien pour tous les autres instants que le corps s'y est mu. Mais l'instant extrême de la moitié, c'est le point où l'on fait la division du temps, de telle sorte que le corps se sera mu aussi dans la moitié. Et d'une manière générale, il se sera mu dans une partie quelconque du temps, car le temps est toujours terminé par les instants au moment même où l'on fait la section. Si donc tout temps est divisible et que l'intervalle des instants soit le temps, tout ce qui change actuellement aura changé un nombre infini de fois antérieurement. Paragraphe 3. Autre considération. Si ce qui change d'une manière continue, sans avoir été détruit et sans avoir cessé son changement, doit nécessairement changer actuellement ou avoir changé dans une partie quelconque du temps, et si le changement n'est pas possible dans un instant, il s'ensuit que le changement a dû s'être produit dans chacun des instants successifs. Par conséquent, si les instants sont infinis, il s'ensuit que tout ce qui change actuellement doit avoir changé déjà dans une infinité de fois. Paragraphe 4. Mais non seulement ce qui change doit avoir changé, mais encore tout ce qui a changé doit aussi changer antérieurement. En effet, tout ce qui a changé d'un certain état à un autre état a changé dans le temps. Supposons que, dans l'instant, le corps a changé de A en B. Il s'ensuit qu'il n'a pas changé dans le même instant où il est en A, puisqu'alors il serait en même temps en A et en B. Car ce qui a changé, quand il a changé, n'est plus dans cet instant, ainsi qu'on vient de le démontrer plus haut. Si l'on dit qu'il est dans un autre instant, il y a alors du temps dans l'intervalle, car on sait que les instants ne sont pas supposés continus. Puisse donc que le corps a changé dans le temps et que le temps est toujours divisible, c'est en une autre mesure qu'il aura changé dans la moitié. Et ce sera également, en une autre mesure, dans la moitié de ce temps-là et toujours de même. Donc, le corps change antérieurement. Paragraphe 5. Ce qu'on vient de dire ici est encore plus clair pour la grandeur, parce que la grandeur où change ce qui est change est continu. Soit, par exemple, un objet qui a changé de C en D. Si CD est indivisible, il y aura un corps sans partie continue à un corps sans partie. Mais comme ce n'est pas possible, il faudra nécessairement que l'intervalle soit une grandeur et que cet intervalle soit divisible à l'infini. Par conséquent, le corps change antérieurement dans ses parties. Paragraphe 6. Il faut donc que tout ce qui a changé change antérieurement. Même démonstration pour les choses qui ne sont pas continues. Par exemple, pour les contraires et pour la contradiction. En effet, nous prendrions le temps pendant lequel l'objet a changé et nous en dirions alors les mêmes choses. Paragraphe 7. Par conséquent, il y a nécessité que ce qui a changé change et que ce qui change est changé. Et le changement antérieur fait partie du changement actuel. De même que le changement actuel fait partie du changement antérieur, de telle sorte qu'on ne peut jamais arriver au primitif. Paragraphe 8. Cela tient à ce qu'un corps sans partie ne peut jamais être continu à un corps sans partie. Car la division est infinie, absolument comme pour les lignes qu'on accroît ou qu'on diminue à volonté. Paragraphe 9. On voit donc que ce qui a été produit doit être produit antérieurement et que ce qui est produit a été produit toutes les fois qu'il s'agit de choses divisibles et continues. Cependant, ce n'est pas toujours l'objet entier qui s'est produit. Ce n'est parfois autre chose que lui et par exemple, c'est une des parties de cet objet, comme le fondement de la maison. Même raisonnement pour ce qui périt et ce qui a péri. Dans tout ce qui se produit et dans tout ce qui meurt et s'en va, il y a toujours quelque chose d'infini en tant que c'est toujours continu, car il est également impossible que ce qui n'a point été soit et que ce qui est n'ait point été de quelque façon. Même observation pour périr et avoir péri, car on verra toujours qu'avoir péri est antérieur à périr, de même que périr est antérieur à avoir péri. Il est donc manifeste que ce qui a été produit doit être produit antérieurement et que ce qui est produit doit avoir été produit. Car toute grandeur quelconque, et le temps quel qu'il soit, sont toujours divisibles, de telle sorte que, quel que soit le récipient où est la chose, elle ne peut jamais y être comme dans son primitif. Chapitre 11. Sommaire. Rapport du fini et de l'infini dans le temps, le mouvement et l'espace. Tout corps fini se meut dans un temps fini. Démonstration de ce principe. Il ne peut pas y avoir de mouvement infini dans un temps fini. Le mouvement fini ne peut pas davantage parcourir un temps infini. L'infini ne peut pas parcourir l'infini dans un temps fini. Démonstration de ces divers principes relativement à la grandeur. au temps et au mobile. Paragraphe 1. Comme tout ce qui se meut ne peut se mouvoir que dans le temps, et qu'une grandeur plus grande est parcourue dans un temps plus grand. Il s'ensuit que dans un temps infini, il ne peut pas y avoir de mouvement fini. Bien entendu qu'il ne s'agit pas d'un mouvement qui serait toujours le même, ni du mouvement de quelqu'une des parties de l'objet, mais du mouvement total dans le temps total. Paragraphe 2. Ainsi donc, il est clair que si le corps se meut avec une vitesse égale, il faut nécessairement qu'étant fini, il se meuve dans un temps fini. Car, en prenant une partie qui mesure exactement tout le mouvement, le corps parcourra le mouvement entier dans des temps égaux, aussi nombreux que le sont les parties elles-mêmes. Par conséquent, ces parties étant finies par la quantité pour chacune d'elles et par la répétition pour leur totalité, il s'ensuit que le temps aussi est limité et fini. Car le temps sera autant de fois aussi grand que le temps d'une des parties multiplié par le nombre même de ses parties. Paragraphe 3. Peu importe, d'ailleurs, que le corps ne se meuve pas d'une vitesse égale. Soit, en effet, un intervalle fini représenté par la ligne AD, sur lequel le corps se meut dans un temps infini. Et soit le temps infini représenté par CD. Si de toute nécessité, le corps se meut dans une partie de l'espace avant de se mouvoir dans l'autre, il est clair qu'il se meut dans une partie différente selon la portion antérieure et postérieure du temps. Car toujours, dans le temps plus grand, il se sera mu d'une autre manière, soit d'ailleurs qu'il change avec une égale vitesse, soit qu'il change avec une vitesse qui n'est pas égal, et soit encore que le mouvement s'accroisse, soit qu'il diminue, ou soit enfin qu'il reste stationnaire, peu importe. Prenons une partie AE de l'intervalle AB, laquelle mesurera exactement AB. Cette partie doit se trouver dans quelque partie du temps infini, car elle ne peut pas être dans le temps infini tout entier, puisque c'est le tout qui est dans l'infini. Si je prends encore une autre partie égale, je suppose AAE, il faut de toute nécessité qu'elle soit mue dans un temps fini, puisque c'est la totalité seule qui est mue dans l'infini. Et si je considère ainsi cette partie, c'est qu'il n'y a pas de partie de l'infini qui puisse servir de mesure commune, car il est impossible que l'infini soit composé de parties finies, soit égales, soit inégales. Attendu que les quantités finies, soit de nombre, soit de grandeur, sont toujours mesurées par quelque autre quantité. Peu importe d'ailleurs que les parties soient égales ou inégales du moment qu'elles sont finies en grandeur. Mais l'intervalle fini est mesuré par les AE qui ont une grandeur quelconque et ainsi AB se meut dans un temps infini. Paragraphe 4. De même encore. Pour l'inertie et le repos. Paragraphe 5. Donc, il est impossible que ce qui est toujours un et le même puisse jamais naître ni périr. Paragraphe 6. Même raisonnement pour prouver qu'il ne se peut pas davantage que dans un temps fini, il y ait un mouvement infini. Non plus qu'un repos infini, soit que d'ailleurs le mouvement soit égal ou inégal. En effet, si l'on prend une partie qui puisse mesurer le temps entier, le mouvement parcourra dans cette partie une certaine quantité de la grandeur, sans parcourir la grandeur entière, puisque toute la grandeur ne peut être parcourue que dans le temps tout entier. De même encore, dans un temps égal, le mouvement parcourra une autre partie de la grandeur, et ainsi de suite, dans chaque partie également. Soit qu'on la prenne égale ou inégale à la partie initiale, car il n'y a d'ailleurs aucune différence du moment que chaque partie prise à part est infinie. Il est clair en effet que le temps étant épuisé, l'infini ne s'épuise pas comme lui. Parce que tout retranchement est fini, soit en quantité, soit en nombre. Par conséquent, le corps ne parcourt pas l'infini dans un temps fini. Peu importe d'ailleurs que la grandeur soit infinie dans un sens seulement, ou dans les deux sens à la fois. Le raisonnement reste toujours le même. Paragraphe 7. D'après ces démonstrations, on doit voir encore qu'une grandeur finie ne peut pas, pour des raisons toutes semblables, parcourir l'infini dans un temps fini. En effet, dans une partie du temps, elle parcourt un espace fini, et même dans chacune des parties successivement. Par conséquent, c'est encore du fini qu'elle a parcouru dans le temps tout entier. Paragraphe 8. Mais si le fini ne peut parcourir l'infini dans un temps fini, il n'est pas moins évident que l'infini ne peut pas davantage parcourir le fini. Supposons en effet que l'infini puisse parcourir le fini. Il faut alors aussi que le fini parcourt l'infini, car peu importe quel est celui des deux qui est en mouvement, puisque des deux façons, le fini parcourt toujours l'infini. En effet, lorsque l'infini représenté par A se meut, il y en aura une partie CD qui sera dans B, lequel est fini, et de même pour telle ou telle autre partie, et toujours de même. Donc, il en résultera simultanément que l'infini se sera mu dans le fini et que le fini aura parcouru l'infini, car il n'est peut-être pas autrement possible que l'infini se meuve dans le fini, sinon que le fini parcourt l'infini, soit en se déplaçant lui-même, soit en mesurant l'infini. Donc, comme cela est impossible, il ne se peut pas davantage que l'infini parcourt le fini. Paragraphe 9. Il n'est pas plus possible que l'infini parcourt l'infini dans un temps fini, car s'il pouvait parcourir l'infini, il parcourrait aussi le fini, puisque le fini se trouve substantiellement dans l'infini. Paragraphe 10. En prenant le temps au lieu de la grandeur, la démonstration serait encore la même. Paragraphe 11. Mais comme dans un temps fini, le fini ne peut parcourir l'infini, pas plus que l'infini ne peut parcourir le fini, et pas plus encore que l'infini ne peut parcourir l'infini, il en résulte clairement que le mouvement ne pourra jamais davantage être infini dans un temps fini. Car où est la différence de prendre pour infini soit le temps, soit la grandeur? Du moment que l'un des deux est infini, l'autre l'est également de toute nécessité, puisque tout déplacement a lieu dans l'espace.